Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez À Fleur de Mots, l'émission littérature et poésie de TTU. Aujourd'hui, on va parler du livre qui nous a le plus marqué en 2022, en compagnie de Bleuen, Laure et Margot à la technique. Bleuen, d'abord, tu nous présentes un roman graphique de polyamour et d'eau fraîche. C'est le témoignage d'un couple. Elsa Herbert, Cookie Calcaire et Christina Rodriguez, raconte-nous pourquoi ça t'a marqué.
D'abord, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du coup de ce troupe. Elsa, Tina et Cookie, qui ont vécu en troupe pendant 18 mois. Voilà, il y en a deux qui étaient en couple avant, ils ont rencontré Tina et ils ont décidé de se mettre en troupe. Et donc, ils ont tenu un compte Instagram, Oli Poli Macaroni, qui leur a ensuite donné l'idée de faire un livre. Ce livre de polyamour et d'eau fraîche répond à 50 des questions les plus récurrentes. J'aimerais d'abord définir le polyamour. Du coup, c'est le fait de vivre une relation intime durable avec plusieurs partenaires en parallèle, de manière consensuelle, franche et assumée. C'est la définition qu'ils donnent dans le livre. C'est donc pour certains une orientation relationnelle, mais aussi pour d'autres un comportement relationnel choisi. Et donc ce livre, il m'a vraiment intéressée parce que c'est un sujet dont on parle assez peu, en tout cas pas de cette manière. Là, c'était vraiment de l'intérieur, du vécu et du partage d'expériences. Et ça ouvre vraiment, je trouve, une autre vision du monde des relations. On a souvent été éduqués à des relations très monogames, souvent aussi hétérosexuelles avec un garçon et une fille. Après, on fait des enfants, voilà, c'est parfait la vie. Voilà. Et donc là, ça ouvre vraiment d'autres horizons et ça permet de comprendre d'autres types de relations qui ne sont pas forcément les nôtres ou qu'on ne connaît pas forcément puisque c'est quelque chose dont on parle assez peu. On parle souvent plutôt de polygamie avec un regard plutôt d'un homme qui va avoir plusieurs femmes et des femmes plutôt restreintes, etc., qui est une polygamie qu'on connaît le mieux. Mais au final, la polygamie et le polyamour, c'est pas pareil du tout. La polygamie, c'est le fait de se marier avec plusieurs personnes. Alors que le polyamour, c'est vraiment une question d'orientation relationnelle, etc. Et donc, ouais, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de suivre l'histoire de ce couple et de aussi comprendre comment ça peut fonctionner. Il y a plein de types de fonctionnements différents. Tous les personnes polyamour ne fonctionnent pas pareil. Il y a aussi des termes, des définitions qu'on n'a pas du tout. Par exemple, le polycule, qui est comme le couple, mais en fait, quand on est en polyamour, bah, c'est pas des couples, parce qu'il y a plein de personnes, et du coup, ça s'appelle un polycule, c'est tout le mélange de toutes les personnes qu'on relationne, etc. Donc, c'est vraiment intéressant pour comprendre le polyamour, mais aussi pour comprendre des définitions, mettre des mots sur des choses dont on n'a pas les mots dans la société. Voilà.
Et parmi toutes ces questions, t'as dit qu'ils répondent à 50 questions, c'est quoi les questions peut-être dont tu te rappelles, qui sont le plus intéressées dans le bouquin ?
Moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'était ce côté-là, avec les définitions des choses qu'on ne nomme pas dans la société, qu'on ne peut pas nommer, comme il y a le couple, mais c'est quoi quand il y a plusieurs personnes ? C'était assez intéressant d'avoir des définitions et des mots à poser sur d'autres formes de relations. Et aussi sur, en fait, il n'y a pas que le couple et le trouble, il y a plein d'autres manières de relationner avec plusieurs personnes, des relations différentes, à différentes échelles. Et voilà, et dedans, ils expliquent ils mettent même des mots sur les différents types de relations. Il y a des relations anarchiques, et je ne sais plus ce qu'il y a d'autres. Mais suivant les classements, certains, ils ont un classement relationnel dans leurs relations, d'autres non. Enfin.
Parce qu'en fait, si on ne mettait pas de mots, c'est aussi parce qu'on ne pensait pas ça, parce que ça n'existait pas, c'était pas possible.
C'est ça. Ouais, du coup, ça permet aussi de penser plus loin et d'envisager quelque chose en fait, dont on n'a pas forcément accès dans la société telle qu'on a été éduqué, telle qu'elle a été construite. Donc, ouais, c'est assez intéressant pour ouvrir des horizons.
Et est-ce que c'est un livre très question-réponse ou est-ce qu'il y a une trame narrative derrière ? Est-ce qu'ils expliquent un peu leur histoire ? Est-ce qu'ils mélangent un peu le personnel à l'explicatif ?
Ouais, c'est vraiment mélangé entre les deux et chaque explication est menée par du personnel. Et en fait, même au niveau de la construction du livre, donc on a la construction en forme de questions avec les questions qui reviennent le plus. Et souvent, on a sur la page de gauche un texte très explicatif, etc. Et sur la page de droite, on va avoir des petits carreaux de bande dessinée avec des situations qu'ils ont vécues, mais qui expliquent aussi, qui illustrent, qui permettent de bien comprendre. Et le livre aussi, il est évolutif avec leurs relations. À la fin du livre, c'est pas du tout pareil qu'au début, et ils l'ont écrit à la fin de leur relation aussi, ce livre. Et donc, c'est intéressant de voir cette évolution aussi dans leurs relations au sein de l'explication.
Moi, je trouve ça assez intéressant, les livres comme ça, sur ce thème, parce que c'est un peu, je ne sais pas comment vous le voyez, mais très souvent, quand je lis ce genre de livre, je me pose un peu la question entre la frontière, entre expliquer une expérience personnelle, et quelque part la frontière entre un peu le voyeurisme. Je ne sais pas si tu t'es posé cette question en le lisant, mais...
Moi, pas vraiment, parce que j'ai pas trouvé ça voyeuriste, justement. J'ai trouvé ça assez didactique, sans être chiant, on va dire, à lire. C'était hyper intéressant, parce que c'était vraiment des questions explicatives, mais ils parlent de leurs relations, de leurs amis, de différentes relations, même des exemples des autres, en fait, des relations, enfin, des types de relations qu'ils ne vivent pas, mais qu'ils connaissent, parce que dans le milieu, ils se connaissent. Et donc, quand ils parlent de relations anarchiques, par exemple, je crois qu'ils ne sont pas dans un type de relation comme ça, mais ils se permettent d'en parler et d'expliquer que bah, ça existe, même si eux, ils ne le vivent pas comme ça, et ils expliquent comment eux, ils vivent. Mais en fait, ils donnent aussi d'autres explications, et du coup, je trouve que ce n'est pas vraiment voyeuriste, c'est assez, assez complet. Et
d'un point de vue littéraire, dans l'écriture et aussi dans les graphismes, le dessin, tu as trouvé ça intéressant? Ça t'a accroché à ce niveau-là? Ou c'est plus le contenu qui t'a fait rentrer dans le livre?
Moi, je dirais les deux, parce que de toute façon, je pense qu'on ne peut pas vraiment dissocier les deux. Si l'écriture, elle nous attrape pas, on ne peut pas lire, même si le sujet nous intéresse. Mais c'est assez léger au niveau de l'écriture et très simple à lire. Moi, je l'ai lu très rapidement, le livre. Et le côté alternance entre un petit pavé à gauche et des carreaux de bande dessinée à droite, c'est assez intéressant, parce que du coup, ça apporte un peu de peps, du dynamisme. Et les dessins sont assez épurés aussi, et assez drôles souvent. Enfin, la mise en scène, etc., c'est assez chouette. C'est un livre qui fait réfléchir, mais qui fait aussi rire. Et
est-ce que tu les suivais avant sur Insta? Et si oui, est-ce que tu n'as pas été déçue de voir des redites? Enfin, est-ce que tu as été quand même étonnée?
Moi, je ne les connaissais pas du tout.
Okay.
Sur Insta, j'avoue que je ne suis pas trop allée sur leur Insta, d'ailleurs. C'est juste quelqu'un qui m'a conseillé ce livre. Et donc, voilà, il me restait de la place sur mon passe culture.
Et du coup, ça ne t'a pas donné envie de les suivre sur Insta après avoir lu ce livre?
Pas spécialement, en vérité. Le livre est tellement complet, je trouve que ça, j'ai pas spécialement eu l'attrait d'aller voir sur Instagram. Après, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi, je pense, assez complémentaire.
Il se suffit à lui-même. Ok, ben, du coup, on va passer à une petite pause musicale que tu nous as soufflée tout à l'heure, Bluen. C'est Oscar et les Vacances qui chante Poly Poly Amour. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu cette chanson, pourquoi tu nous l'as suggérée?
Moi, je l'ai suggérée parce que ça parle de polyamour, et on va dire qu'il y a assez peu de chansons sur la question quand on tape polyamour sur YouTube. Il y en a trois, je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai vite fait avant, il n'y en a pas beaucoup. Et ouais, c'est assez intéressant, et puis c'est un chanteur qui n'est pas très très connu et qui est chouette.
Mais on l'écoute tout de suite.
Chaque jour, Folie, 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 amour. Tu es les autres, c'est ta fille. Jamais, 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 jamais mon tour.
Réécrire un mythe grec, c'est ce qu'a fait Madeline Miller. Laure, cette histoire de sorcière grecque t'a beaucoup marqué l'année dernière.
En effet, elle m'a beaucoup marqué. Madeline Miller, vous avez peut-être entendu déjà parler de ce nom. Elle est notamment connue pour un de ses livres qui s'appelle Le Chant d'Achille, qui a fait un énorme buzz sur TikTok, d'ailleurs cette année. Moi, je me suis d'abord intéressée à un de ses livres, qui est sorti donc en 2018, qui s'appelle Circé. Circé, c'est la réécriture du mythe de Circé, qui est donc une sorcière dans la mythologie grecque. C'est la fille du dieu soleil Hélios et d'une nymphe qui s'appelle Persée. Et en fait, Circé, elle est, c'est un peu le mouton noir de sa famille, puisqu'elle n'a pas les pouvoirs de son père, elle n'a pas le charme de sa mère. Et elle développe des dons de sorcellerie, ce qui fait très très peur à son père et qui décide de l'exiler sur une île. Circé, on la connaît notamment pour son histoire d'amour avec Ulysse, une histoire d'amour passionnelle, où elle décide en fait, de tout faire pour que Ulysse ne quitte pas son île. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans cette réécriture du mythe, c'est que pour une fois, Circé, on la place comme personnage principal de l'histoire, parce que dans tous les mythes où elle y est, en fait, c'est toujours un peu le personnage secondaire. Et là, de voir en fait cette femme, cette figure de sorcière mal aimée de la société, je trouve ça très intéressant en fait de la voir en personnage principal. Et en fait, d'apprendre à connaître tous les grands personnages de la mythologie, donc par exemple Ulysse, Icare, Hermès, de les voir en fait et de les découvrir en tant que personnages secondaires. Donc pour toutes les personnes qui aiment finalement la mythologie grecque, c'est un livre qui est parfait pour vous et qui en fait donne en fait un autre point de vue sur la mythologie grecque et j'ai vraiment adoré.
Et tu trouves que c'est quand même fidèle à ce qu'on sait de la mythologie grecque, ça respecte quand même, j'imagine bien, la trame principale, enfin le caractère des personnages qu'on en sait.
Oui, tout à fait. En fait, Madeline Miller, donc, c'est une autrice américaine qui a énormément étudié la mythologie grecque. Par exemple, pour Le Chant d'Achille, elle a passé plus de 10 ans à écrire ce livre. C'est énorme. Alors, elle n'a pas passé autant de temps à écrire Circé, mais je pense qu'elle a passé aussi beaucoup de temps. Et ça se sent, en fait, parce qu'on sent qu'il y a eu énormément du travail de recherche derrière. Et il y a des longues descriptions, où elle va faire des longues descriptions au niveau du paysage ou au niveau du caractère. Et on sent que toutes ces descriptions sont étayées par des vraies recherches, quoi. Et c'est vraiment, enfin, du moins, je ne suis pas professeur, enfin, je ne suis pas assez documentée sur la mythologie grecque pour avoir une opinion objective, mais je pense que c'est quand même très fidèle à ce que la mythologie grecque en dit, en tout cas.
Et la mythologie grecque, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur pour ceux qui ne sont pas férus de lecture. Est-ce qu'il est quand même assez accessible, le livre, et assez facile à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas du tout la mythologie grecque?
Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que moi, je l'ai lu en anglais. Je ne l'ai pas lu en français, donc je ne connais pas la traduction française. Après, comme je l'ai dit, il y a énormément de longues descriptions. Je le conseillerais peut-être pas à un lecteur qui n'a pas l'habitude de lire des livres, parce que c'est vrai que quand tu commences un livre, avoir un livre où il y a plein des pages et des pages de descriptions, c'est peut-être pas le plus accessible, quoi, on va dire. Mais par exemple pour une personne qui aime beaucoup la mythologie grecque mais qui n'a pas l'habitude de lire des livres, là je pense que ça pourrait convenir puisque le contenu est vraiment très intéressant.
Et à quel point elle apporte de l'originalité du coup, est-ce que c'est peut-être dans la psychologie des personnages, est-ce qu'il y a une part aussi de l'interprétation et quelle est cette part là, est-ce que toi-même tu peux le savoir vu que tu connais peut-être pas assez, je sais pas.
Oui, tout à fait, il y a carrément une part d'interprétation puisqu'on sent que c'est un, enfin que la plume de l'autrice est extrêmement féministe, parce que bah, y a vraiment toute cette réflexion au niveau de la femme isolée dans la société parce qu'elle est différente. Et il y a toute une réflexion par rapport à cette position-là et à cette figure de sorcière. Par exemple, Mona Chollet a fait un essai assez connu sur ça. Et j'ai lu cet essai juste avant de lire Circé. Et j'ai totalement retrouvé quelques notions que Mona Chollet avait abordées dans cet essai, dans ce livre-là. C'était super intéressant de le lire juste après.
Oui, Mona Chollet, elle explique, je crois, si je me souviens bien, que la sorcière, c'est la femme qui a, après... c'est au début de la Renaissance, était persécutée et parfois tuée parce qu'elle était femme, et notamment parce qu'elle était femme vieille, parce qu'elle était femme célibataire. Et il y a un troisième point, c'était peut-être qu'elle était sans enfant, ou en tout cas qu'elle est indépendante. Et c'est ces trois marqueurs-là, en tout cas c'est les trois grands axes du bouquin. Et du coup, est-ce que ça se retrouve là, dans Circé, ces aspects-là?
Alors carrément, donc Circé au niveau de la vieillesse, c'est pas trop le cas parce que ben elle est exilée quand elle est très jeune, mais elle est exilée justement parce qu'elle est différente, parce que c'est une femme qui est indépendante, qui refuse de se marier. Et pour toutes ces raisons, en fait, elle est à l'écart en fait de ce que voudrait son père pour elle. Et en plus de bah, du coup de au fur et à mesure avoir des dons de sorcellerie, ben, pour toutes ces raisons en fait, il décide de l'exiler. Donc c'est totalement en fait ça rejoint totalement ce que tu disais.
D'accord, super, ben merci beaucoup Laure. On écoute tout de suite une musique de Tilassine, pardon, qui s'appelle Versailles, et c'est un morceau que tu as choisi Laure, et tu aimes beaucoup cet artiste. Tu peux nous dire un peu pourquoi?
Oui, j'aime beaucoup cet artiste parce que Tilassine, il a une manière de construire ses morceaux qui est absolument géniale, c'est-à-dire que tous les sons que vous allez entendre, en fait, c'est des sons qu'il a enregistrés à Versailles même. Et en fait, c'est quelqu'un qui voyage énormément, et à chaque fois qu'il fait un voyage, il fait une musique dessus avec des éléments qu'il a enregistrés pendant son voyage. Voilà, du coup, je trouve ça super intéressant.
Donc, on écoute Versailles. À moi maintenant de vous parler du livre qui m'a marqué en 2022. Un livre qui a été écrit en même temps qu'a été tourné un documentaire.
Bouge pas, Sylvain, bouge pas. Dans les yaks, ils nous ont vu, c'est certain.
Meunier avait fait de la fût une esthétique en même temps qu'une philosophie. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la panthère des neiges.
This world has ears and rocks have eyes.
En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient.
The world is a bush full of fire.
Dans la nature, face à toi-même, tu ne peux pas tricher.
Meunier m'avait offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la terre.
We are not alone.
Elle nous a vu passer. Ouais, elle est là. Elle nous observe.
We are not alone.
Là.
C'est un saisissement du cœur. C'est tout ce à quoi on l'a annoncé.
Ce documentaire, c'est Vincent Meunier qui part à la recherche de la panthère des neiges dans les hauts plateaux tibétains. Et à ses côtés, Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur. Il observe Meunier qui pratique l'art délicat de l'affût et la lecture des traces des animaux. Et il prend des notes. Et ces notes, c'est ce qui a donné La Panthère des Neiges, donc ce livre qui m'a marqué beaucoup. J'ai vu le documentaire après avoir lu le livre. Et ça a été un choc émotionnel en plus, on va dire. Ce qui m'a passionné dans ce livre... C'est déjà l'écriture de Tesson qui est, je trouve, magnifique, qui est très efficace. Enfin, il y a une forme d'efficacité dans la poésie, dans le sens où, je sais pas si ça a du sens, mais il arrive à être poétique très vite avec très peu d'éléments, et avec finalement un discours qui est un propos qui est assez simple, qui est de dire en fait on vit dans des sociétés où on est déconnecté totalement de la nature. Et moi, je me retrouve avec Vincent Meunier, qui a l'opposé totalement de ça. Et ce qui fait que ça marche dans le documentaire, c'est que on voit ce personnage de Vincent Meunier qui est quelqu'un. Et c'est ça qui accroche. Mais dans le livre, on a moins cette présence du personnage. On a tout simplement l'écriture de Tesson qui nous parle de la nature. Et c'est ça qui nous accroche. Et c'est ce propos-là qui doit être porté. Et donc, je disais, un propos assez simple qui arrive quand même à toucher grâce à la poésie dans l'écriture. Parce que oui, on sait que... Moi, j'ai souvent des prises de conscience sur ma déconnexion vis-à-vis du monde animal. Mais le fait de voir quelqu'un qui passe des heures, des journées à faire des affûts pour attendre un animal qui ne viendra peut-être pas, et toute cette question-là de l'attente, de la patience et de la frustration aussi, qui sont deux éléments dont on manque, je pense. Et il y a aussi la question de la violence du monde animal, dont on essaye au maximum de se préserver, qu'on essaye au maximum de ne pas regarder, qui est abordée. Et c'est un livre aussi beaucoup de rêveries. C'est un livre que j'ai lu... vite, mais en même temps en faisant beaucoup de pauses. Et je l'ai lu aussi en itinérance, c'est-à-dire que je le lisais à plein d'endroits. Enfin, c'est un moment où je bougeais pendant que je lisais ce livre, et je me souviens de l'avoir lu un peu à l'extérieur, genre dans des parcs ou quoi, et du coup de m'être vachement imprégnée des lieux dans lesquels je l'ai lu. Je sais pas si ça a de l'importance dans ça, mais voilà. Et je voulais vous lire un extrait. Et peut-être après on pourra en parler un peu plus. entre nous, qui n'est pas un extrait du livre, en fait, c'est un extrait que Tesson lit de ses notes, mais qu'il lit seulement dans le documentaire, mais que je trouve bien résumé le livre et aussi l'écriture. Sur les pages de mes carnets, j'avais réuni les quelques principes que m'inspiraient ces journées passées à côtoyer la beauté. Vénérer ce qui se tient devant nous, ne rien espérer, jouir de ce qui s'offre, avoir foi en la poésie, se contenter du monde, lutter pour qu'il demeure. Voilà, c'est de Sylvain Tesson. Est-ce que ça vous inspire ?
Ouais, bah, moi, à vrai dire, j'ai connu Vincent Millet plutôt que Sylvain Tesson par plusieurs œuvres, mais notamment avec les premiers livres qu'il a sortis sur les hauts plateaux du Tibet, parce qu'il y allait plusieurs années avant d'y aller avec Sylvain Tesson. Et je trouve que ces quelques phrases que tu viens de nous lire, elles résument très bien la pensée de Vincent Millet, pour le coup, qui est ouais, un contemplatif, un grand contemplatif du monde, à s'émerveiller de... autant d'une panthère des neiges qu'une maison jupée à côté de chez lui. Et c'est ce qu'il dit dans un documentaire sur lui-même. Mais c'est assez intéressant parce que Sylvain Tesson arrive à retranscrire, je trouve, le personnage de Vincent Millet à travers ses mots, mais il arrive aussi à montrer la position que lui, il a. J'ai pas lu La Panthère des Neiges, mais j'ai lu d'autres éditions, notamment celle faite en collaboration avec Vincent Meunier. Mais je trouve qu'il retranscrit bien la position qu'il a, qui est finalement un peu la position, je pense, de tous les citoyens lambda, on va dire, qui n'ont pas forcément une approche spéciale à la nature, où ils vont pas en affût le week-end, où ils vont pas spécialement se confronter à la nature. Et je trouve que c'est assez intéressant, parce que Sylvain Tesson a cette position innocente, on va dire, d'aller dans la nature avec son côté impatient à vouloir aller à l'aventure, à toujours voir des nouvelles choses, la vitesse finalement de nos sociétés occidentales. Et donc, je pense que ça donne un côté assez accessible au livre à tout le monde, parce qu'on s'identifie à son personnage qui est impatient, qui doit passer des heures et des heures assis en affût dans le froid pour voir un animal qu'il ne verra peut-être pas. Et on se dit, mais il faut être fou pour faire ça. Et au final, je pense. Le personnage de Sylvain Tesson permet assez bien de s'identifier.
Oui, tout à fait. D'autant que Vincent Meunier, il a un côté, rustique, très rustique, très, j'allais dire animal, mais t'as l'impression qu'il est difficile à approcher, comme l'est un animal, il est difficile à comprendre, et donc il est très difficile de s'identifier à lui, quand bien même il est fascinant. Et quand même, on a peut-être tous envie de lui ressembler, en tout cas moi, j'aimerais beaucoup, mais je m'en sens tellement détachée que ça semble impossible. Et du coup, Tesson fait ce lien-là, justement, parce que Tesson l'a suivi, parce que Tesson a quand même bien été dans les sommets tibétains, à l'affût de cette panthère. Alors que c'est un citoyen lambda, même si c'est un grand voyageur aussi, donc c'est pas non plus...
Moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, Sophie, c'est qu'ils partent à deux au Tibet. Est-ce qu'on sent dans le livre que c'est vraiment une co-création avec Vincent Meunier, ou est-ce que c'est vraiment le livre de Sylvain Tesson ?
C'est une bonne question. Alors, ils partent à trois en réalité, parce qu'il y a la femme de Meunier. Et je pense oui, parce qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de citations de Meunier. Donc Meunier cite beaucoup, Tesson cite beaucoup Meunier, donc on voit justement sa fascination de par ces citations-là, et c'est des citations sur lesquelles honnêtement on s'arrête, quoi. On se dit ah ouais, genre il est vraiment fascinant ce gars, donc ouais, je sais pas si c'est une co-création, en tout cas Tesson écrit sur Meunier beaucoup, et il y a beaucoup de Meunier dans ce livre, en fait, voilà.
Et dans la bande d'annonce que tu nous as fait écouter au début, ce que je trouve assez intéressant à relever, c'est que c'est très, très sonore, en fait, cette bande d'annonce. Les sons sont vraiment omniprésents. Dans le passage que tu nous as lu, on dirait que les sens aussi sont au cœur de l'écriture de Tesson. J'ai jamais lu de livre de Tesson, mais est-ce que toi, quand t'as lu ce livre, est-ce que t'as eu l'impression de partir voyager avec eux au Tibet, ou t'es restée plus dans cette position de lectrice vraiment, où t'es restée chez toi?
Oui, franchement, je suis partie voyager au Tibet. En fait, c'est des allers-retours parce qu'il te ramène toujours tes sons à ta condition de. Et il te fait beaucoup réfléchir sur ta condition d'occidental, machin. Et en même temps, oui, il te fait voyager parce qu'il passe beaucoup de temps à décrire la nature, décrire les animaux qu'il voit. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et comme en fait il a passé tout son temps à regarder, à observer la nature, forcément il en a fait quelque chose, il n'a pas fait que parler d'autre chose, c'était quand même le sujet. Et il ne parle pas que du tout de la panthère, et c'est pour ça que j'évoquais notamment la violence qui existe. Et là, en fait, il y a vraiment une. Comment dire? La rudeur, je sais pas si ça existe, mais à quel point c'est rude de vivre dans les sommets tibétains. Alors pour un homme, mais aussi pour toutes les espèces, et à quel point ces espèces, elles doivent survivre, et donc elles ont un mode de vie qui est vraiment hardcore, je sais pas, j'ai pas trop de mots, mais et ça, je trouve que c'est hyper inspirant aussi. En fait, c'est marrant, on est inspiré par les animaux, mais enfin voilà, parce que nous, on vit dans le confort, enfin dans le confort le plus total, et donc je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai fait des parallèles personnellement, peut-être un peu étranges, mais j'ai fait des parallèles avec la vie qu'ont eu par exemple mes grands-parents, qui étaient des paysans de la campagne pauvre de chez les pauvres, et qui du coup ont cette expérience. En tout cas, mes grands-parents me parlent beaucoup de à quel point il faut être dur, il faut s'endurcir, la vie c'est pas facile, on a travaillé, on a machin, et j'essaye toujours de me rappeler de ça, et ce livre c'est aussi un moyen de parler de ça. C'est le lien que j'ai fait, et je pense que ça résonne en chacun différemment. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça a résonné.
Est-ce que tu penses que ces allers-retours dont tu parlais entre un peu le voyage où tu pars avec Tesson et Meunier au Tibet et le moment où ça te fait reconnecter avec la société occidentale, etc. Est-ce que tu penses que c'est important pour avoir une prise de conscience ces deux trajectoires dans le livre?
Oui, tout à fait, tout à fait. Le livre, il n'aurait pas de sens s'ils n'étaient pas allés au Tibet, s'ils n'avaient pas vu tous ces animaux, s'il n'y avait pas ce Tesson. Mais c'est l'environnement, cet environnement, je disais, un peu difficile, rude, et la beauté de cette nature qui font qu'on a ces réflexions-là. Pour faire une petite pause après toutes ces discussions autour de nos livres qui nous ont le plus marqué, à nous, Bleuen, Laure et moi, cette année 2022, on va écouter une artiste australienne, Tash Sultana, qui va interpréter Jungle.
Yeah.
C'était Jungle de Tash Sultana. Après toute cette revue de chacun de nos livres de 2022, on va discuter un petit peu, justement, sans changer vraiment de thème, mais comment qu'est-ce qui fait qu'un livre vous marque et vous en souvenez ? Alors là, c'était le livre de l'année dernière, donc c'était pas trop dur. Mais globalement, les livres qui vous viennent là, quand je vous dis les livres qui vous ont marqué, pourquoi est-ce qu'ils vous ont marqué ? Qu'est-ce qui fait qu'un livre est marquant dans une vie ?
Moi, ce qui fait qu'un livre est marquant, je pense que c'est son histoire, évidemment, parce qu'un livre, ça raconte une histoire, mais c'est aussi, je pense, le rapport entre l'histoire, ce qu'elle raconte, et le moment de notre vie auquel on va le lire. Et il y a, à ce moment-là où on lit la première fois, ou peut-être même une seconde fois, il y a une sensibilité qui se crée, un rapport avec le livre qui se crée, et c'est ça qui fait qu'il nous marque, parce que enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, il m'a apporté quelque chose, il m'a appris quelque chose. Où, voilà, ça a eu un apport. Et au niveau de l'histoire, au niveau de ce que ça racontait, peut-être au niveau de l'écriture aussi, si c'est un livre qui a une écriture particulière. Et donc, c'est vraiment cette sensibilité liée à un instant présent d'une certaine période qui va faire que le livre va vraiment me marquer. Par exemple, le premier livre que j'ai lu en aimant lire, voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est ce genre de choses, je pense, qui manque. C'est un rapport vraiment avec un instant et le bon livre au bon moment, finalement.
C'est quoi le premier livre que tu as aimé lire ?
C'était Nos étoiles contraires.
Ouais. Je te voyais acquiescer, Laure. Je partage l'avis de Blaine.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment cette je veux que ce soit conjoncturel, quoi. C'est-à-dire que bah, si je reprends l'exemple de Circé, moi, c'est un moment où je me posais beaucoup de questions sur le féminisme et ce livre est tombé vraiment à pic entre mes mains. Et l'histoire était géniale et la couverture était magnifique. Moi, ce qui me marque très souvent dans les livres, c'est la couverture, c'est tout ce qui est graphique. Et la couverture de Circé est juste magnifique et m'a énormément marquée. Et des fois, c'est assez marrant parce que finalement, des fois, il y a des couvertures qui me marquent plus que des livres. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas où vous avez la couverture en tête, mais vous n'avez plus le nom du livre. Et du coup, vous êtes à chercher sur Google couverture avec, couverture jaune avec un poussin, j'en sais rien. Et c'est assez marrant de voir que, enfin, je sais pas, en tout cas chez moi, peut-être parce que j'ai une mémoire plus visuelle que au niveau des mots, j'ai eu un petit bug. Mais ouais, moi souvent, c'est la couverture qui me marque.
Et t'as utilisé l'expression tomber entre les mains comme si c'était le hasard. Est-ce que justement, il vous est arrivé d'avoir des livres qui vous tombaient entre les mains au mauvais moment ? Et du coup, de pas du tout les apprécier, passer à côté, et qu'à un autre moment, plus tard, ils vous reviennent entre les mains, et que là, vous vous dites, ah putain, en fait, c'était stylé.
Moi, je pense, ouais, mais je les ai pas lus, en fait. Je pense, quand je commence un livre et que je sens que je rentre pas dedans, que ça matche pas, bah, juste, j'arrête de le lire. Et j'ai énormément de livres chez moi que j'ai pas lus. Et je sais que je vais les lire, je sais que j'ai envie de les lire. Là, j'en ai une quinzaine chez moi que j'ai envie de lire. Je les ai d'ailleurs achetés pour les lire. Sauf que, il faut les lire au bon moment, puisque c'est des livres compliqués, ou alors il faut avoir le temps de les lire, le bon endroit aussi. Tu nous parlais tout à l'heure de l'endroit où tu as lu La Panthère des Neiges. Je pense qu'il y a des livres comme ça qui parlent de voyage, ou qui parlent de reconnexion avec la nature, ou plein de sujets différents. Et je pense qu'il y a aussi le lieu du livre qui peut compter. Et donc, personnellement, quand j'ai un livre et que je sens que ça ne va pas être le bon moment pour le lire, que je vais le commencer, mais je ne vais jamais le finir, bah, je préfère des fois ne pas le commencer et choisir le bon moment au bon endroit et pour le commencer et être sûr de le finir et qui me marque aussi et que je m'imprègne bien du livre de la bonne manière.
C'est vrai que je partage totalement ton opinion parce que en fait, le lire un livre pour la première fois, c'est un moment tellement précieux à mes yeux que j'ai pas envie de le gâcher parce que c'est pas le bon moment, parce que j'ai peut-être pas toutes les connaissances pour l'apprécier à sa juste valeur. Par exemple, il y a un livre qui traîne dans ma bibliothèque depuis des années, c'est un livre de Lévi-Strauss, donc un ethnologue connu. Moi, l'ethnologie, je trouve ça très intéressant, c'est l'étude des...
C'est un anthropologue, je crois, non ?
En tout cas, c'est un livre sur l'ethnologie,
ah,
celui-là.
Ah, ok, pardon. Mais peut-être que je me trompe, désolée.
Et donc, c'est l'étude des sociétés, des civilisations, si je me trompe pas. Et
les deux.
Les deux. D'accord, merci la régie. et donc, ce livre-là, je l'ai acheté il y a quelques années. Et en fait, j'ai commencé à le lire et je me suis dit bah, que je comprenais. Enfin, j'avais pas assez de notions, en fait, pour l'apprécier. Et du coup, bah, il est toujours dans ma bibliothèque et il attend toujours. Mais il y aura bien un jour, il faudra que je le lise. Mais du coup, oui, voilà, c'est tout ça pour dire que, en fait, vu que c'est la première fois que tu lis un livre, c'est précieux et j'ai pas envie de le gâcher.
C'est vrai que ce que tu dis, c'est particulièrement vrai, peut-être pour ce qui est des essais, notamment les essais politiques ou philosophiques, on peut pas tous les lire à 6 ans, quoi, logique. Et surtout, on se construit progressivement, politiquement, par exemple, théoriquement, chacun passe par. On passe par certaines théories politiques, on en revient, on prend du recul, on se dit que c'était pas ça, puis on passe par autre chose. Il y a des trucs qu'on connaissait pas du tout, qu'on va découvrir plus tard, etc. Et donc, c'est un véritable cheminement et on a besoin d'avoir certaines étapes avant pour pouvoir arriver à d'autres étapes après.
Je pense qu'il y a aussi, parfois dans notre vie, on va avoir besoin de lire un type de livre ou un livre sur tel sujet. Et des fois, peut-être on va avoir ce livre depuis des années dans notre bibliothèque, mais c'était pas le moment. Et à une période de notre vie, pour différentes raisons, comme tu dis, on se construit petit à petit avec nos opinions, etc. On va avoir besoin de lire des livres sur ce sujet pour prendre du recul, pour apprendre des choses, etc. Et c'est, ouais, je pense que c'est vraiment important de lire dans les bonnes conditions la première fois un livre, parce que des fois, on parle de relecture aussi. Et je pense qu'on ne relira pas un livre qui ne nous a pas plu la première fois. Donc c'est vraiment important de lire dans les meilleures conditions, parce que des fois, on peut ne pas aimer un livre la première fois, parce que c'était pas le bon moment, parce que c'était pas le bon endroit, et on n'était pas assez mûr aussi, peut-être.
Et en même temps, quand je vous écoute, je pense que... Enfin, quand je t'écoute, Blaine, parler du fait qu'il faut avoir lire les livres au bon moment, je pense à certains livres qui ont créé comme ça des espèces de failles et qui m'ont fracassé sans que je l'ai anticipé. Sans que je le veuille. Et là, j'ai pensé à deux livres comme ça, qui sont deux BD. Oui, c'est ça. La première que j'ai lue assez jeune, c'est Paracuellos. Je le dis en anglais, pas en espagnol parce que c'est espagnol. C'est de Carlos Jiménez et qui raconte son enfance dans des orphelinats espagnols sous le franquisme, avec un dessin qui est très caractéristique de cet auteur. Et il y a beaucoup de violence. C'est très dur. Et le livre fait beaucoup ressentir ça. Là, quand je pense à ça, je pense à ces enfants qui ont un peu morveux, la morveux-nez, qui sont pauvres, qui ont des habits qui leur un peu déchirés, tout ça, et qui sont maltraités dans ces orphelinats. Mais c'est pas que horrible. C'est un livre qui est pas que horrible. C'est un livre qui est aussi drôle, qui est aussi qui est juste un récit personnel. Donc il y a un peu de tout. Il n'y a pas que de la dureté. Mais ça m'avait beaucoup marqué parce que j'étais enfant, et enfin j'étais assez jeune quand je l'ai lu, j'étais jeune ado ou peut-être même carrément enfant, et cette violence là, ce côté dramatique m'a marqué sans que je sois allée vraiment vers ça, juste le livre m'est tombé entre les mains. Et ça m'a fait pareil avec un autre livre, et là par contre on est dans quelque chose de purement tragique, c'est Mouse j'ai oublié son nom. Ça, je viens d'avoir un trou, mais en gros c'est un fils ou petit-fils d'un rescapé d'Auschwitz qui raconte la vie de son grand-père, je crois que c'est vraiment son grand-père, et tout ça avec des souris, Mouse, à la place des êtres humains, et c'est juste, c'est un assez gros livre, c'est assez long. Et quand je suis rentrée dedans, j'avais pas prévu d'y rentrer. Je savais que c'était un livre que je devais lire à un moment, parce qu'il est dans la bibliothèque de chez moi, parce que j'ai en tête en tout cas l'idée qu'on a ce devoir de mémoire, qu'à un moment faut regarder des œuvres sur le génocide juif, parce qu'il faut savoir ce qui s'est passé, il faut s'en rappeler. Et je me suis lancée dedans, mais je pense que j'étais totalement inconsciente de ce que j'allais voir, parce qu'en fait on peut pas être conscient de ça, c'est trop, c'est juste trop. Et ça m'a fracassée. En même temps, j'ai pas pu m'arrêter de le lire parce que c'est pas un livre qu'on arrête de lire, en fait, qu'on abandonne. On peut pas. En tout cas, je me sens dans le devoir de le lire jusqu'à la fin. Et en même temps, c'est un livre qui est épuisant. Et donc, on est obligé de faire des petites pauses quand même. Bref, c'est un livre qui est arrivé à un moment où j'avais rien demandé. Moi, je faisais ma petite vie et où j'ai eu l'impression, pendant les quelques jours où je l'ai lu, ou peut-être la semaine où je l'ai lu, je sais pas, d'avoir mis ma vie en pause et de ne penser qu'à ça. Parce que c'est la réalité, en fait. C'est pas juste un livre, c'est juste le récit d'une vie. Et même plusieurs semaines après, même encore aujourd'hui, j'y pense. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça.
Oui, c'est vrai que... Alors moi, j'ai plus de titres en tête comme ça qui me viennent, mais c'est vrai que quand on parle un peu de cette obsession pour une histoire ou pour un imaginaire, ça m'est arrivé aussi, sur des temps peut-être plus courts, peut-être, ouais, quelques jours. Et là, j'ai plus d'exemples en tête, mais je sais que ça m'est arrivé et c'est assez fou de se dire que les mots peuvent créer une obsession comme ça. Je trouve ça assez dingue et je trouve ça intéressant de voir que ça arrive à d'autres personnes aussi, quoi.
Moi, j'avais ça, mais pour tous les livres, à vrai dire. Je lisais tous les livres, je les gobais, quoi. Genre, je lisais tous les livres quand j'en commençais un, à une période, le jour même ou le lendemain, il était fini, le livre. Et j'avais ce côté un peu obsessionnel. Quand je lisais un livre, je ne pouvais pas m'arrêter parce que, vraiment, j'étais dans l'histoire et tu as envie de continuer l'histoire et tu ne peux pas abandonner l'histoire parce que... On va dire, tu es avec les personnages, etc. Toi, tu as la question du devoir de mémoire en plus qui était là. Mais je pense que même pour d'autres fictions, etc., tu as une sorte de devoir envers les personnages, peut-être, ou je sais pas, tu es dans la vie des personnages, tu veux pas les lâcher, etc. Mais du coup, ce que tu disais, ça m'a aussi posé la question. Je pense que il y a la question de comment on arrive à lire un livre. Parce que toi, tu vois, tu dis un livre, ça peut arriver dans nos mains comme ça. Tu vois, ces livres-là, tu t'attendais pas à les lire. Moi, j'avoue que ça m'arrive assez rarement. Mais parce que la plupart des livres que j'ai chez moi, j'ai choisi de les avoir chez moi. Donc, c'est pour ça aussi que je parlais de ce côté, les lire au bon moment. Je pensais aussi beaucoup à des essais ou à des livres un peu complexes à lire. Là, en ce moment, j'ai pas mal de livres de Robert Reinhardt chez moi à lire. C'est des livres qui parlent d'écologie pas mal, mais qui sont assez compliqués à lire, on va dire. Mais une fois qu'on est dedans, c'est assez chouette.
C'est des essais politiques ?
Non, c'est pas des essais. C'est Robert Reinhardt, c'est un sculpteur et peintre du XXe siècle. Et bah, on parlait de Vincent Munier tout à l'heure, c'est le grand maître de Vincent Munier, Robert Hénard. Et donc il a écrit pas mal sur la nature, son rapport à la nature, le rapport entre l'homme et la nature. Et il était assez précurseur sur les questions écologiques. Et ses livres sont quand même assez lourds à lire, on va dire. Et c'est pour ça aussi que je pensais à ce côté, le lire au bon moment, au bon endroit. Là, j'ai commencé à lire « Et la nature » de Robert Hénard. Et j'ai commencé à lire, bah, pareil que toi, sur la route, à des endroits autres que chez moi. Et c'est ça qui m'a amené à le lire, parce que j'étais au bon endroit, au bon moment, dans un endroit un peu dans la nature, un peu perdu. Et moi, c'est pour ça que j'avais ce rapprochement. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des livres, au final, qu'on tombe dessus et on se dit « bah vas-y, je vais le lire ». Et c'est vrai qu'on s'attend pas forcément, du coup, à ce qu'il y a à l'intérieur, etc.
Oui, c'est ça, on est hyper surpris, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et vous, ça vous est arrivé? Enfin, vous avez des idées d'exemples de livres comme ça qui vous ont tombé dessus, ou vous avez ouvert, mais vous n'étiez pas prête, en fait, à ce dans quoi vous embarquiez?
Moi, j'ai des idées de livres que j'ai lus sans m'attendre à ce qu'il y avait dedans, mais c'est pas des livres qui m'ont fracassé, comme tu disais. C'est des livres plutôt qui étaient chouettes à lire. Bah, c'était des romans graphiques, notamment l'été dernier. J'ai lu pas mal de romans graphiques qui étaient là sous mes yeux à ce moment-là, donc je les ai lus, mais au final, c'était des romans graphiques relativement légers, assez, qui apportaient des nouvelles perspectives, etc. Mais c'est pas des choses qui fracassaient, c'était assez quand même léger.
Moi, il y en a un comme ça qui me vient en tête, c'est le roman graphique Peau d'homme. J'ai plus l'auteur en tête, mais je l'ai pris comme ça parce que, bah, encore une fois, la couverture m'a attirée. Et je suis rentrée, et je crois que je l'ai lu d'une seule traite. C'est assez court à lire. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial et vraiment fascinant. Et donc du coup, pour faire un peu l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui vit dans un univers, on va dire, plutôt médiéval. Alors du coup, le roman, c'est de Hubert. Voilà, encore une fois, merci la régie. et donc du coup, c'est une femme qui vit dans un univers italien, je crois, italien ou médiéval, je sais plus. On va dire médiéval, voilà. Et en fait, qui est obligée de se marier. Et elle décide de rencontrer l'homme qu'elle se marie en se cachant derrière la peau d'un homme pour pouvoir savoir à quoi va ressembler son futur mari. Et donc, y a toute une histoire autour de ça, et je trouvais ça absolument génial. Et j'avoue, je ne m'attendais pas à ressentir autant de choses, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de lire des romans graphiques, j'apprécie vraiment ça. Mais vu que l'histoire est courte, plus j'ai du mal à rentrer dedans, parce qu'il me faut du temps, en fait, pour rentrer dans une histoire. Et là, je crois que c'est vraiment le premier roman graphique qui m'a autant percuté, et je m'en souviens encore. Et du coup, c'est une preuve que ça m'a marqué, quoi.
Et tu t'attendais à ce que tu allais découvrir? Comment t'es tombée dessus?
Vraiment par hasard, je crois que c'était une recommandation peut-être de ma mère. Les livres viennent souvent à moi par des recommandations de ma mère, qui est une très grande lectrice. Et je crois que ça a été comme ça une recommandation de ma mère. Et je suis allée comme ça, parce que je fais confiance à ma mère pour ses conseils. Du coup, j'ai même pas lu le résumé, j'ai juste plongé dedans. Donc je m'attendais à rien. Et du coup, j'ai été super surprise, quoi. C'était vraiment génial.
C'était À fleur de mots avec Laure Bleuhen et Margot à la technique. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À bientôt sur TTU